Bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin. Comme d'habitude, on va parler de plein de sujets en deuxième heure. Je vais vous demander si vous lisez vos polices d'assurance avant de les signer. Est-ce que vous magasinez vos primes? Il y a une grande enquête qui va sortir dans quelques jours sur les assurances voiture-habitation. Enquête sur le prix, votre satisfaction à l'égard de vos assureurs. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a un nouveau sondage qui vient de nous dire que 80% des Québécois lisent à peu près pas leur police d'assurance. Moi, je pense que ça sera un bon début, commencer à lire. On va en parler tout à l'heure en deuxième heure d'émission, donc de tout ça avec vos commentaires. Bien sûr, on aura des spécialistes également. Et puis, parce qu'aujourd'hui commence le fameux C2 Montréal, créativité. C2, c'est commerce et créativité. On va essayer de voir comment la créativité, est-ce que ça s'apprend d'abord? Est-ce qu'on peut apprendre à être plus créatif? Ou est-ce qu'on tombe dedans dès qu'on est jeune? Mais bref, est-ce que ça se développe? Et si oui, comment peut-on développer sa créativité pour que ça soit un peu payant. Alors voilà notre programme de la deuxième heure. En première heure, on va revenir sur un sujet qui a beaucoup fait jaser hier parce que vous l'avez peut-être vu, l'Observatoire des tout-petits qui est relié à la Fondation André et Lucie Chagnon nous a appris des choses assez j'allais dire troublante. Oui, effectivement, je pense que c'est troublant de savoir qu'il y a à peu près 75 000 enfants au Québec qui sont dans des garderies qui n'ont pas un service de garde potable. Et bien au contraire, 75 000 petits Québécois aujourd'hui seraient dans un service de garde de piètre qualité. Le reste, c'est pas bien bien mieux. On n'est vraiment pas dans l'excellence, comme le disait hier Fanny Dagenais, la directrice de l'Observatoire des tout-petits, qui a fait cette vaste étude. Fanny Dagenais est avec nous. Merci d'être là, Fanny. Khalid Daher est justement président de l'Alliance québécoise des garderies privées non subventionnées, celle qu'on pointe beaucoup du doigt. Monsieur Daher, merci d'être avec nous, puisqu'on dit que près de 40% des garderies non subventionnées au Québec sont faibles ou de très faible qualité. Merci d'être là ce matin. Merci d'être là. Toby Lamontagne, vous êtes bien là, oui.
Je suis là, oui.
Toby Lamontagne est un entrepreneur qui a des enfants, bien sûr, parce que comme toute personne qui travaille, Toby doit jongler avec les horaires.
Salut Isabelle, oui. Ouais, Premier touché par cette nouvelle un peu dévastatrice.
Voilà. Ben, tiens, dis-moi donc comment t'as vu ça avant de parler à Fanny.
Je vais t'avouer franchement, Isabelle, on se connaît bien, je suis depuis plusieurs années très critique du réseau, de la façon que le réseau se développe. Principalement à cause des décisions gouvernementales. Mais j'ai trois enfants. J'ai à 5 reprises changé de service de garde pour les enfants. Alors, j'ai une petite expérience de terrain. Et je suis absolument pas surpris des résultats qui sont publiés par l'étude pour en avoir visité un bon nombre des différents types, hein, autant CPE que garderie en milieu privé. Et ce qui nous frappe, ce qui choque, je te dirais même, quand on visite les différents endroits, c'est la disparité. La grande disparité d'un endroit à l'autre, c'est à se demander est-ce qu'il y a un critère quelconque là pour accepter ces niveaux de service là. Est-ce que les gens qui lancent des garderies, qui dirigent des garderies, sont filtrés, recrutés, sélectionnés d'une quelconque façon? Moi, je suis en affaires. Tu le sais, t'es en affaire toi aussi. Puis je ne comprends pas comment fonctionne ce business-là. Je peux pas comprendre qu'on se parte des garderies de nos jours comme on se part un dépanneur. Moi, je suis entrepreneur d'expérience et j'oserais pas me lancer dans un domaine comme ça qui est aussi particulier, aussi sensible, aussi fragile. On s'occupe d'une clientèle très, très, très particulière. Comment se fait-il qu'on puisse aussi facilement se lancer en affaire dans un domaine? C'est comme dire « je deviens médecin ». Ça me tente, j'ai 100 000 en banque, j'ai un peu d'équité, je me deviens médecin.
Ça nous replonge dans la crise des permis de garderie à l'époque.
Oui, absolument. Hein? Puis c'est peut-être qu'on vit aujourd'hui des séquelles de cette espèce de Far West il y a quelques années.
Fanny Dagenais, vous êtes directrice de l'Observatoire des tout-petits. Donc, vous avez évalué la qualité des services éducatifs envers nos jeunes enfants. Là, on parle des enfants donc préscolaires, c'est des tout-petits. Là, ça va de bébé à 5 ans. Donc, et en gros, selon votre rapport, il y a des enjeux de qualité dans tous les services de garde.
Oui. Absolument. C'est donc dire qu'il y a une proportion non négligeable de tout-petits qui fréquentent des services qu'on dit de faible ou de très faible qualité. Cette proportion-là, elle varie selon les types de milieux. Donc, ça provient de l'enquête Grandir en qualité qui a été menée par l'Institut de la statistique du Québec. Et il faut toutefois le dire, la proportion d'enfants qui fréquentent des milieux de faible ou de très faible qualité est peu élevée dans les CPE, bien qu'il y en a quand même. Toutefois, quand on regarde l'ensemble des services service éducatif de garde, la note globale, dans le fond, qui est attribuée, c'est la note acceptable. Donc, ce n'est pas excellent, ce n'est pas bon, c'est acceptable.
Mais ce acceptable, démontre... c'est genre 60 % quand tu es à l'école puis que tu as une note acceptable, tu as comme 60 % là.
Clairement, on a place à amélioration et c'est vraiment l'objectif de ce rapport-là, c'est qu'on puisse prendre connaissance de la situation et discuter en tant que société de ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité parce que c'est déterminant pour le développement des enfants.
Donc, vous dites, les CPE, c'est pas, c'est acceptable aussi, là, c'est pas super, mais les garderies non subventionnées, les garderies privées non subventionnées, là, il y a vraiment une grande disparité de services, puis il y a même vraiment des services de très faible qualité.
Effectivement. Puis ceci dit, il y a sans doute des parents qui nous écoutent ce matin. Puis
c'est sûr.
Il y a des bons milieux aussi dans tous les types dans tous les types de milieux de garde. Donc ça veut pas dire nécessairement que parce que notre enfant fréquente un service privé qu'il est de mauvaise qualité, mais c'est certain que quand on regarde au global, il y a plus d'enjeux de qualité dans ces milieux-là. Et on a rendu disponible sur notre site internet toutpetit.org un schéma qui présente dans le fond les critères de qualité qui sont importants. Donc les parents peuvent regarder ça de leur côté aussi.
Oui. Alors, c'est là où M. Khalid Daher va intervenir, parce que vous représentez justement l'Alliance québécoise des garderies privées non subventionnées. Vous êtes beaucoup pointé du doigt. En tout cas, vos membres le sont dans la foulée de ces observations. Comment vous réagissez à ça, M. Daher?
Primo, je trouve que cette étude-là ne concerne pas tout le réseau. Si on peut parler de réseau, parce que quand on parle de réseau, ça suppose que c'est connecté. Ce n'est pas connecté du tout. Vous avez... 5 types de services de garde. Les CPE, les bureaux coordonnateurs au milieu familial. Vous avez les garderies subventionnées privées, les garderies non subventionnées. Vous avez les garderies le milieu familial non subventionnées.
Ah non, mais c'est d'une complexité. Là. Ouais, enfin, c'est plus compliqué que ça, mais c'est difficile à battre.
La constatation est la suivante. C'est qu'au fait, on a étudié même pas la moitié de ce réseau, étant donné que le milieu familial n'a pas été étudié. Que les garderies subventionnées n'ont pas voulu participer à cette étude-là. Donc, au fait, on a scruté la moitié d'un réseau. Ce n'est pas un échantillon représentatif de tout le réseau. Aujourd'hui, on fait la comparaison dans l'étude. CPE, garderies non subventionnées. Pourquoi ? Et les autres ? Veut-on vraiment rendre service aux parents ou veut-on juste pointer quelqu'un du doigt et dire qu'il est mauvais ? Si on veut faire une étude qui soit objective et complète, il faut que ça concerne tout le réseau. Ça, d'une part. D'autre part, il faut savoir...
Mais c'est un échantillon, si je peux me permettre, quand même assez important. Quand on teste un service sur deux, c'est comme on a quand même testé 50 % du réseau. Ça donne quand même une bonne idée d'ensemble. C'est sûr que ce n'est pas exhaustif de tous les CPE, de toutes les garderies.
C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que un échantillon...
C'est quand même un sondage important.
Ce que monsieur veut
souligner. Je reviendrai un peu là-dessus. Ouais, ouais. Mais l'échantillon en tant que tel, il n'est pas représentatif de tout le réseau. Il concerne même pas la moitié. Si on considère que vous avez à peu près 92 000 places dans le milieu familial, vous avez... 46 000 à peu près dans le milieu subventionné privé, ça fait à peu près 138 000. Ouais. Et vous avez les garderies privées non subventionnées en milieu familial, une quinzaine de... Ça fait une bonne part du réseau qui ne répond pas à l'appel. Ça, c'est important. Mais d'autre part, je vais vous dire autre chose. Ouais. Excusez-moi, parce que là, on est en train de faire une étude ponctuelle et on généralise. C'est pas normal de faire ça. Vous pouvez étudier cette qualité-là en vous adressant ou en questionnant la base de données des inspections du ministère. À quoi sert-elle? Dans cette base de données, vous pouvez déduire qui c'est qui marche, qui c'est qui travaille le mieux par rapport à l'autre. Ouais. Je vais vous dire quelque
Donc
chose.
Donc vous réfutez complètement.
Ah, mais n'est pas objectif parce que un observatoire, madame, il doit regarder le tout. C'est comme si on dit à quelqu'un surveillez cette classe tout en faisant fi d'une la moitié peut copier, l'autre fait je la surveille. Les autres ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça ce que ça veut dire. Mais je vous dis que il faut aller vers la base de données des inspections du ministère.
Je suis en train de tenir la montagne là-dessus. Puis aussi, Fanny, parce que ce que M. Daher dit, c'est que c'est pas représentatif de votre affaire, puis que dans le fond, c'est peut-être... Régent Parent, ce matin, dans le Journal de Montréal, dit malgré, je cite Régent, qui vient souvent à notre émission, malgré ses nobles intentions, le rapport de l'Observatoire peut ouvrir la porte à un discours catastrophique sur les services à la petite enfance au Québec. C'est intéressant comme point de vue. C'est-à-dire que, bon, est-ce qu'on est en train de dépeindre quelque chose qui est peut-être pas si pire que ça? Les auditeurs vont vous aller pouvoir nous appeler là, dans quelques minutes, 514-790-9850, parce que je pense que nous, on va faire notre petit sondage non scientifique, mais quand même, les auditeurs le vivent aussi avec leurs enfants. Fanny, comment vous voyez ça?
Alors, il y a deux choses. D'abord, et c'est quelque chose qu'on a très bien nommé dans le rapport, on manque de données récentes sur la situation. L'Observatoire ne mène pas d'études comme telles. On part des données qui sont déjà existantes, pardon, et évidemment, les données les plus rigoureuses.
Et vous tirez les grandes lignes.
Et on tire les grandes lignes. Ouais. Donc, effectivement, l'étude Grandir en qualité a été menée en 2003. Elle a été menée de nouveau en 2014. On aurait aimé présenter des données 2017. Malheureusement, on ne les a pas. Donc ça, c'est un grand message. Il faut continuer d'évaluer la qualité. Il faut soutenir les milieux pour qu'ils puissent s'améliorer. Parce que c'est un autre élément qui est ressorti du rapport. C'est que le seul milieu pour lequel on a une évolution dans le temps, c'est les CPE. Et entre 2003 et 2014, donc sur une période de 10 ans, la qualité ne s'est pas améliorée, malgré le fait qu'on avait identifié qu'il y avait des lacunes en 2003. Donc, en tant que société, ce qu'on souhaite, c'est, bon, effectivement, le portrait n'est pas optimal. Par contre, ça nous indique quand même qu'il y a des enjeux de qualité qu'il faut considérer. Et ce qu'on souhaite, c'est de tout de suite discuter ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer cette qualité-là.
Mais Fanny, pourquoi sortir ça maintenant si ce sont des données qui ne sont pas forcément récentes, qui datent les dernières datant de 3 ans? Pourquoi sortir ce grand dossier de l'Observatoire des tout-petits maintenant?
C'est que ces informations-là ont circulé, mais de façon fractionnée. On souhaitait vraiment faire un état de la situation en rassemblant non seulement les données de Grandir en qualité, mais les données aussi des études menées dans les maternelles 4 ans, étant donné qu'on s'y intéresse beaucoup depuis quelques années. Et on a aussi dans notre
rapport...
Est-ce
que c'est pour justement convaincre les politiciens qui vont quand même nous appeler aux urnes dans pas longtemps qu'il faudrait peut-être instaurer les maternelles 4 ans de façon systématique?
Ben il y a des enjeux de qualité.
Quel est l'enjeu derrière ça? Parce que c'est pas anodin ce que vous faites là.
Ben pour nous, l'Observatoire des tout-petits, notre mandat, c'est vraiment de sensibiliser les décideurs, les citoyens, les acteurs du milieu aux enjeux qui peuvent avoir des effets sur le développement des tout-petits. Oui. Et ici, il y a un enjeu qui est déterminant. Et je pense qu'en tant que société, on peut améliorer cette qualité-là parce qu'il y en a des conditions qui sont associées à une meilleure qualité. La formation, les conditions de travail des éducatrices, on peut en parler.
On va revenir sur les critères justement après la pause avec les commentaires de nos auditeurs. Mais Toby, avant d'aller à la pause, sur ce que M. Dyer disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'était pas représentatif.
Je pense qu'on peut trancher, Isabelle, de façon très claire et très simple. Hier, le ministre de la Famille, Luc Fortin, nous a dit « Ces données-là sont connues, sont véridiques. On a déjà pris action en partie face à ces informations-là. » Alors, si le ministre s'entend que les données sont véridiques et sont probantes, je pense qu'on, nous aussi, en tant que citoyens, on peut les prendre. Deuxièmement, l'étude de l'Observatoire que j'ai feuilletée est plus qu'une étude. C'est un guide, je vous dirais, même pédagogique, que j'invite les gens à aller voir sur le site de l'Observatoire des tout-petits. Alors, ça expose des pistes de solutions, ça expose des choses très intéressantes, des comparables avec des choses qui se passe ailleurs. Alors, c'est beaucoup plus que juste un ramassis de chiffres. Il y a vraiment des pistes intéressantes. Et je peux vous dire finalement qu'une étude comme ça aurait pu être faite un soir avec une bouteille de vin, 4-5 familles, des parents assis autour d'une table. On vous aurait dit tout ça à partir de l'expérience qu'on vit sur le terrain. Alors, c'est assez difficile à ce point-ci de réfuter, je pense, les données qui sont devant nous aujourd'hui. Mmh. Il est préférable de parler de solutions, je pense, puis d'évolution du réseau, plutôt que de s'entêter à vouloir dénoncer des études qui, d'ailleurs, ont été menées par Statistique Canada, en partenariat avec le gouvernement du Québec. Je pense que l'échantillonnage est très, très, très parlant.
On va revenir, bien sûr. Monsieur Darry, vous aurez le droit de parole, bien sûr, encore après la pause. Nos auditeurs vont pouvoir intervenir là-dessus. Est-ce que vous, quand vous confiez, puis il y a des parents qui m'écrivent qui se sentent parfois coupables de laisser leur enfant très tôt le matin à la garderie pour aller travailler, puis le reprendre à la fin de la journée, souvent, des fois, en arrivant en retard, puis on calcule un prix cher aussi pour chaque minute ou 5 minutes de retard, d'après ce qu'on me dit. Des parents qui disent, des fois, je me demande si je serais pas mieux de rester à la maison, s'il n'y en a pas un de nous deux, là, un des deux parents qui ne devrait pas rester à la maison, étant donné que ça nous arrache le cœur de domper. Là. Il y en a qui me disent ça. Là. J'ai l'impression de domper mon petit à la garderie puis de ne pas savoir ce qu'ils vont faire avec. C'est un peu la question qu'on vous pose. Comment savoir si vos enfants sont entre bonnes mains quand on les dépose gentiment, avec toute la bienveillance qu'on a comme parents dans un service de garde? Moi, quand je vois ça, là, quand même, un sur deux que, où il y aurait des services de piètre qualité, enfin 40 % dans les services, les garderies privées non subventionnées, je trouve que c'est assez important comme échantillonnage. Dites-moi ce que vous en pensez au 514-790-9850 et vous pouvez nous joindre sans frais partout au Québec en faisant le 1-866-790-9850. On se demande ce matin comment savoir si nos enfants sont entre bonnes mains quand on les dépose dans un service de garde, quel qu'il soit, que ce soit une garderie privée non subventionnée, que ce soit un CPE, que ce soit une garderie en milieu familial. Il y a au moins 5 façons. On oublie aussi les gens qui le gardent, la voisine, le grand-parent, l'ami, bon, qu'on pourrait rajouter là-dedans. Des fois, tu fais même des regroupements. Des fois, il y a des gens qui s'organisent comme ça. Là. Il y a une maman ou un papa, là, puis ils disent, ben ils s'organisent. Ils ont comme 3-4 enfants. C'est pas une garderie, mais ça a l'air d'une garderie. On a avec nous Chantal, qui est justement une éducatrice et qui est aussi une maman. Bonjour, Chantal.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Ben, en fait, c'est ça. Moi, je suis éducatrice dans une garderie privée non subventionnée.
Oui.
Et ici, ça nous choque un petit peu ce matin, en fait, les résultats. Mm-hmm. Parce qu'en fait, des milieux de garde, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et ça, partout, peu importe si c'est des CPE ou des garderies privées non subventionnées. Mm-hmm. En fait, comme disait monsieur tantôt, on répond aux mêmes exigences hein, relativement aux inspections et tout. Déjà, à cette base-là, nous, on répond aux mêmes critères. Par contre, nous, le milieu n'est pas subventionné, contrairement à d'autres. Donc, pour, bien sûr, offrir un service de qualité, on n'a pas les mêmes subventions. Hein. Donc, on répond, il faut répondre aux mêmes exigences.
Ouais. Donc, vous n'y arrivez pas, c'est ça que vous me dites? C'est difficile d'y arriver?
Ben ici, la directrice y arrive quand même très, très bien. Par contre, elle fait beaucoup de sacrifices. Ouais. Mais de là, ça vient... Le travail qu'on fait, en fait, on le fait avec passion. Mm-hmm. Donc, ça dépend vraiment... c'est pour ça que je dis que des milieux, peu importe que si c'est un CPE ou une garderie privée non subventionnée, il y en a des bons, des moins bons partout. Ici, nous, quand on fait visiter aux parents, en fait, on leur dit vraiment, allez-y selon le sentiment que vous avez, la première impression. Mm-hmm. Et vous parlez tantôt comme des frais de retard et tout. Nous, ici, on est un milieu qui est très humain. On ne charge pas de frais de retard à aucun parent, malgré qu'il y en ait parfois. Donc, nous, on comprend des situations comme ça. On essaie de se mettre à la place des parents. On est parents aussi. Ouais. Moi, ma fille fréquente mon milieu. Malgré tout, j'en ai visité d'autres. J'ai visité des CPE. J'ai fait des stages aussi dans des CPE parce que ma formation, c'était en fait un prérequis là, pour ma formation. On l'exigeait. J'en ai fait 3 dans des CPE. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Je pense pas que parce qu'on n'est pas subventionné, on est un moins bon milieu. Donc, c'est vraiment l'opinion qu'on a ici.
Oui, merci beaucoup, Chantal. Le seul problème, c'est que justement, puis ça, on est conscient, c'est sûr qu'il y a toujours des bonnes et des moins bonnes choses, mais pour un parent, c'est un peu inquiétant de savoir que c'est quasiment de la chance si tu trouves un milieu qui est bon pour ton enfant. Tu sais, t'as quasiment, selon les chiffres, là, c'est quasiment une chance sur deux ou un risque sur deux que ça soit pas un bon endroit de qualité pour ton enfant. Je trouve que ça peut pas être comme ça au Québec. On peut pas laisser près de la moitié de nos enfants comme ça. Surtout si je vous rappelle que la plupart des pédopsychologues et pédopsychiatres vont nous rappeler que tout se joue avant 5 ans ou 6 ans. En tout cas, Fanny Dagenais, il y en a qui débattent de ça, mais je veux dire, c'est quand même assez documenté. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la petite enfance, d'où l'importance d'avoir des services de qualité.
Souvent, en tant que parent, on réalise les problèmes en cours de route. Une fois que l'enfant est inscrit, ouais. Après quelques mois, on réalise que bon, la nourriture est pas très bonne, l'attention portée à l'enfant est pas super, il y a pas de lien affectif qui se développe, pas beaucoup d'activités extérieures. Là, je nomme toutes des choses qui moi m'ont fait décrocher de certains milieux de garde. Là. Même dans les études, on voit que c'est les thèmes qui reviennent souvent. Donc on le découvre en cours de route, puis là, on est pris devant un autre dilemme. On change l'enfant de milieu encore, en bas de 5 ans. Là, la gestion du changement là, émotivement pour un enfant, c'est pas facile de recommencer le processus pour trouver une garderie. Donc, souvent, on va faire perdurer le problème, on va attendre, on va donner une deuxième chance, une troisième chance. Il se passe 1 an, 2 ans. Ma fille, ma plus vieille, a passé 2 ans dans un milieu de garde où elle détestait le milieu de garde. On essayait de comprendre, on essayait de fouiller, on essayait de pour finalement réaliser que c'était le milieu qui lui convenait. Pas. Mais ça peut être long des fois, mais pendant ce temps-là, nous, on vit avec, c'est pas une grosse culpabilité, là, mais sur le coup, à chaque jour, comme tu disais tout à l'heure, on avait un pincement au cœur quand on l'amenait là, parce qu'on savait qu'elle voulait pas y être, elle nous l'exprimait, mais on comprenait pas, on savait pas de quoi elle parlait. C'est un sentiment, comme la personne dit, là, c'est ton gut feeling. Mais voyons, quelle base que c'est ça pour développer et assurer la pérennité d'un réseau, le gut feeling des parents. Voyons, c'est ça le système là, qu'on a?
Ouais. On a Carl avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes un parent, Carl?
Je suis un parent utilisateur et un propriétaire de deux installations, là, une privée et une subventionnée.
OK. Donc, expliquez-nous donc un peu.
Là, dans le fond, l'étude qui a été faite là, ben, en 2003 et 2014, là, écoutez, vous tantôt, vous parliez au niveau des appels d'offres. Là, ça m'a beaucoup touché parce que nous, dans le fond, on a soumis plusieurs appels d'offres là, pour avoir nos installations. Une chose qu'on a trouvé vraiment loufoque là, dans un certain sens, c'est que les projets sont faits derrière un ordinateur, là, tout avec des documents, là, donc tous les documents du ministère, mais il n'y a rien. On n'a jamais été rencontré quelqu'un du ministère ou du bureau quelconque pour aller parler de nous, parler de notre côté investisseur, de notre côté la passion qu'on a envers les enfants et tout. Donc, on était vraiment surpris là, de la façon là, que les permis étaient donnés. Là, donc, je vous cacherai pas que c'est un petit peu... Le processus est un petit peu, comment on pourrait dire ça, le biaisé dans un certain sens. Là, on voit pas qui... Nous, on aurait même pu présenter des projets pour d'autres personnes, là, si on aurait voulu. Là.
Donc, ah ouais.
Oui, vraiment.
Mais quand vous dites les permis sont donnés, vous dites qu'en ce moment, c'est comme il y a quelques années, quand on voyait qu'il y avait une espèce de, entre guillemets, trafic de permis, là, c'est-à-dire que c'était un peu c'est le club des petits amis. Est-ce que c'est encore ça, vous dites, non, d'après vous, Carl?
D'offres qui sont lancées, dans le fond, du côté du ministère lorsqu'il y a des places qui sont attribuées par secteur. Donc, les appels d'offres, là, par la suite, on doit remplir là, certains documents, certains critères, avoir en possession là, notre terrain et tout. Mais, dans le fond, n'importe qui peut remplir une demande. Il s'agit d'avoir là, ça, le financement requis, naturellement. Mais on n'est pas obligé de connaître le domaine nécessairement là, pour ouais. présenter un projet. Là.
Mm-hmm. Donc, c'est comme Toby disait tout à l'heure, écoutons, c'est quasiment aussi facile que de s'ouvrir un dépanneur. Là.
Ben, d'ailleurs, il y a des consultants hein, qui se spécialisent, là, qui peuvent remplir les demandes pour vous là, et puis qui s'assurent que vous allez avoir vos permis. Parce que des fois, les gens arrivent au Québec, ils ont de l'argent pour investir, ils ne connaissent pas nécessairement les règles, les normes, font affaire à des consultants.
Tu parles des dépanneurs
ça.
Ou des garderies? Là?
Les deux. Ouais, ça se gère pas mal de la même façon. Là, quand...
ben, j'ai Carole qui m'écrit. Merci, Carl. On va parler à Michel. J'ai Carole aussi qui m'écrit, je crois qu'il y a beaucoup d'abus, par exemple. Elle dit qu'elle connaît quelqu'un là, qui emploie une fille à 18 $ de l'heure. Je comprends que la fille, c'est comme une éducatrice. 18 $ de l'heure dans un endroit privé public, pour ne pas dire dans un hôtel. Elle s'est trouvée un chum. Ils se sont mis à acheter des garderies en faillite. Ils en ont maintenant deux. Prévoient en acheter une autre dans environ 2 ans. Ils roulent en voiture de luxe. Ça roule. Ils font beaucoup d'argent. Je lui ai dit, est-ce que tu trouves ça normal de faire de l'argent si vite avec des garderies en faillite? Il semble que ça soit pas un problème. Carole estime, elle, que c'est quasiment malhonnête. Bon, alors oui, il y a toutes sortes d'histoires. Là, je vous lisais en même temps que je lisais. Il y a des gens qui visiblement, sont près de certaines autres personnes. Michel, vous, comment vous vivez ça? Est-ce que vous êtes un parent, Michel?
Oui, je suis un parent, puis j'ai une fille de 5 ans.
Oui.
Elle est en garderie privée. La seule chose que je voulais mentionner, moi, je suis très satisfait, à part du fait que c'est assez coûteux, là, 20 $ par jour quand même. Mais ce que je voulais dire, c'est pourquoi il n'y a pas un ordre comme dans les écoles primaires ou les écoles secondaires où on les classifie en premier, deuxième, troisième. Pourquoi c'est pas fait de la même façon au niveau des garderies, autant privées que publiques?
Qui veut répondre à c'est ça?
Il parlait du palmarès, hein, ouais. Je pense, des écoles. Mais oui, ça, le palmarès est fait par une agence privée, en fait. Ben, c'est pas le gouvernement qui fait le palmarès.
Ben, entre autres, l'actualité.
Il faudrait que l'actualité s'en mêle.
Puis encore là, bon, le palmarès de l'actualité sur les écoles est décrié chaque année parce qu'il y a le Journal de Montréal aussi qui en fait un maintenant. Bon, c'est pas une science exacte non plus, l'évaluation de ce qu'on comprend. Monsieur Daher le disait tout à l'heure. Khalid Daher, vous êtes président de l'Alliance québécoise des garderies privées non subventionnées.
Mais je vais juste revenir un peu à cette étude-là puisque c'est l'objet de la rencontre. Donc, cette étude-là manque aussi d'un... Il n'y a pas une corrélation entre le prix et les différents... type de garderie. Quand on sait qu'une garderie non subventionnée pratique des tarifs les plus bas du réseau, 35 $ par jour, vous imaginez, tandis qu'un CPE, c'est plus de 75 $, ça va même jusqu'à 90 $ par jour, par enfant, si l'on compte tout ce qu'ils reçoivent, comme subvention, exonération, participation du ministère.
Les parents ne payent pas ça, mais en gros, ce que vous dites, c'est que la place dans un CPE coûte beaucoup plus cher aux contribuables.
Mais attention, ça induit une autre affaire que personne ne connaît. Le choix n'est pas entre les mains du parent. Exactement. L'article 1er de la loi dit qu'il faut donner le choix aux parents. Ouais. Alors ce choix est biaisé par cette subvention. Je trouve ça un peu anormal, mais je rajoute un peu autre chose, c'est Je recommande à l'observatoire d'aller bûcher dans les ou miner dans les inspections, là-bas, donner des inspections. Vous allez trouver, madame, des choses incroyables.
Comme par exemple?
Moi, j'ai fait ça. Et j'ai établi des critères, des indices d'indication de performance.
Allez-y.
Exemple. Mm-hmm. Alors, pour dire que telle et telle unité ou entité du réseau est bonne, j'ai choisi la chose suivante. Sigma, la somme de tous les manquements constatés par les inspecteurs du ministère divisé par l'ensemble, le nombre total des éléments vérifiés. Ça vous donnera une idée sur ce réseau, sur chaque partie du réseau. Naturellement, vous allez buter contre un mur pour le milieu familial où il n'y a pas d'inspection, rien du tout.
Mais de toute façon, ce que je lis, il y a un très bon article d'ailleurs de Paul Journet dans la presse où il parle du fait que justement le libre choix il est assez limité parce que, comme vous le dites, M. Daher, bon, au niveau de l'inspection, il y en avait 44 inspecteurs à une certaine époque. Aujourd'hui, il semble qu'il n'y en ait que 34. Donc, on comprend que pour tout gérer le réseau puis inspecter tout le monde, une trentaine d'inspecteurs, ça ne fait pas la job. Là.
Savez-vous que certains CPE n'ont jamais été inspectés que pour le renouvellement. Il n'y a pas d'inspection à l'impromptu comme ça. Il n'y en a pas. Et en plus...
Ils sont tous occupés à Revenu Québec.
Ils sont occupés à collecter de l'argent aussi. Ils sont tellement riches. Alors, il y a autre chose, c'est que...
Vos critères.
Alors, je termine mes critères. Ouais. L'autre critère, c'est le nombre de manquements par visite. Regardez un peu ce critère. C'est très important. Le ministère a une banque de données très importante qu'il n'utilise jamais. Il ne compile pas les résultats. Et là, l'observatoire, vous allez avoir de quoi travailler pendant de longues années. Ouais. Moi, j'ai fait cet exercice-là et j'ai trouvé des choses incroyables.
On revient avec les commentaires de nos auditeurs. Michel, entre autres, après la pause, 514-790-9850 pour nous dire comment vous vous sentez quand vous laissez vos enfants à la garderie. Avez-vous l'impression que vous les laissez à des bonnes personnes qui sont en bonne main, qui vont bien manger, qui vont être... éduquer, c'est ça, hein, on parle de services éducatifs et de garde, pas juste de garde. Alors, je vous écoute tout de suite après. On parle avec Danielle, qui a, elle aussi, des enfants dans un CPE. Danielle, ils sont vos enfants?
Là, présentement, oui, mais avant, mes enfants ont été... mon aîné était 4 ans dans une garderie privée,
oui.
Non subventionnée, puis moi, je suis des parents qui pensent que pour s'impliquer, si on veut que les choses aillent bien, donc le mois où mon congé, les deux, on était sur le comité de parents, mm-hmm. administration et tout, et on voyait des choses, ça n'avait aucun sens, comment c'est absurde. Bref, la facilité d'avoir un permis et tout, on faisait nous-mêmes des interventions, on mettait le sel dans l'entrée,
C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a combien de temps, les permis faciles à obtenir, là? Est-ce que
c'est encore aujourd'hui, ils vont venir dans la troisième garderie, là. Ben oui, c'est facile, là. Ils ont bien de l'argent, là, bref, les propriétaires, c'est des immigrants qui sont arrivés avec beaucoup, beaucoup d'argent et ont acheté 2 permis de garderie, ils vont en acheter un troisième, ça roule en Tesla, bref.
Ah, mon Dieu, comment c'est-tu les mêmes que les autres de tout à l'heure? Mais c'est parce que quand j'entends ça, là, Fanny va dire, ben là, c'est un autre débat, mais en même temps, c'est relié parce que vous vous souvenez de l'époque des garderies dites Tomassi? Tomassi étant l'ancien ministre de la Famille à l'époque, le libéral, là, Tony Tomassi, qui d'ailleurs, la semaine passée, je pense qu'il n'y a pas longtemps, là, la semaine dernière, le 17 mai, je pense qu'on est quoi? Là, ça fait la semaine dernière, c'est bien ça. Il avait été condamné pour fraude envers le gouvernement du Québec parce qu'il avait comme trafiqué des histoires de permis. Et donc, il a payé pour sa... Hein, pour sa fraude, et on vient de lui remettre un droit de construire à nouveau. Il peut construire n'importe quoi. Il vient d'avoir un nouveau permis de construction. Il dit qu'il a appris de ses erreurs. Bien, tant mieux pour lui. C'est juste que là, si on dit qu'il y a toujours ce système qui prévaut, il faut poser des questions. Il faut que le ministre Fortin fasse plus que dire « Oui, oui, on le sait, là, on s'en occupe. » Parce que là, jusqu'à date, là, visiblement, d'après les commentaires de mes auditeurs, il y a du monde qui sont au courant aujourd'hui de situations qui ressemblent tout à fait à ce qui se passait à l'époque. Mm. Fanny, vous êtes au courant de ça? Hein?
Bien, écoutez, pour moi, j'entends tout ça, puis ce dont j'aimerais parler, c'est de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Parce que quand on parlait tout à l'heure, j'étais d'accord avec monsieur, on dit on veut que les parents aient le choix, mais est-ce que c'est un choix quand on doit choisir parmi des milieux où la qualité sera vraiment pas au rendez-vous? Donc, par exemple, la formation des éducatrices, c'est vraiment un niveau de formation élevé, un niveau de formation spécialisé en petite enfance, c'est associé à une meilleure qualité de façon générale. Et à l'heure actuelle, les exigences, c'est que dans les 5 premières années après la livraison du permis, on doit avoir le tiers des éducatrices formées et après 5 ans, on demande que le 2/3 soit formé. Ceci dit, le rapport de la Commission sur l'éducation à la petite enfance d'il y a 1,5-2 ans, donc recommandait plutôt que 100% du personnel soit formé, y compris la direction des établissements, parce qu'évidemment, ça aide beaucoup quand la personne qui prend les grandes décisions a reçu une formation, comprend bien les étapes du développement de l'enfant.
Mais nonobstant tout ce que vous venez de dire, Fanny, avec beaucoup de justesse, je pense aussi qu'il faut qu'on statue, puis ça, c'est une job de ministre, pour dire que les garderies, quelles qu'elles soient, là, parmi tous les modèles, évidemment, les CPE, c'est clair, c'est le gouvernement, mais les autres, là, subventionnés, non subventionnés, ça ne peut pas être une business. On ne peut pas éduquer nos petits-enfants en faisant une business avec ça. Il faut que ça soit... société à but, sans but lucratif, moi, ça m'apparaît évident. Mm. Pour pas qu'on ait ensuite du... on va prendre n'importe quelle éducatrice sur le bord parce qu'elle coûte moins cher que l'autre. On va mettre de la bouffe mangeable parce que ça coûte moins cher que l'autre.
Mais dans ce cas-là, continuez, dans les écoles, les universités aussi.
Mais peut-être que le système n'est pas bon, monsieur.
De diaboliser tout un réseau, madame. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, au Québec, c'est un peu particulier. Regardez en Suède. Pratiquement toutes les garderies sont devenues des garderies privées parce que ça coûte moins cher à l'État. En Hollande, un peu partout. Aujourd'hui, l'État ne peut plus
subvenir. Mais c'est pas ce que je dis, monsieur Lahaire.
Vous êtes en train de me dire que nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas ceci, cela.
Mais c'est pas moi qui le dis, là.
Vos commentaires cachent à peine vos intentions. Non, madame. Si vous voulez dire, allez-y au dépanneur partout, il faut que tout soit pas de business. Ouais. Allez-y dans les pays.
Non, je dis que quand il s'agit d'éducation des enfants...
Vous voulez instaurer un système communiste. Je suis pas d'accord avec vous, madame.
Non, pas du tout. Mais on est loin du système communiste, là. On est dans le système hyper capitaliste, monsieur Lahaire.
Les organismes à but non lucratif sont aussi des organismes privés qui se font de l'argent. Le salaire d'un directeur de CPE dépasse les 100 000 $. Moi, je touche pas 100 000 $, madame.
Ouais. Premièrement, moi, je me pose à ça carrément. Là. Je vais même aller plus loin que ça encore.
Tu te poses à quoi?
À l'idée qu'il y a une injustice face aux garderies privées non subventionnées et tout. Je suis désolé, là. S'il y a bien un business au Québec qui se rapproche d'un racket, c'est les garderies privées. Je suis désolé. Moi, je suis en affaires. Imagine, si j'avais un modèle d'affaires où j'étais garanti d'avoir ma clientèle, où j'étais garanti d'avoir une subvention, si mes clients étaient subventionnés pour le café qu'ils viennent chercher le matin ou l'épicerie qu'ils viennent faire durant le jour, je serais-tu heureux, moi, comme entrepreneur? Si l'État me payait directement dans mes poches plutôt que ça passe par mes clients où je dois attendre mes paiements, si j'avais des conditions d'affaires qui étaient même ne serait-ce que minimalement comparables à ce qui se passe dans les garderies, je serais l'entrepreneur le plus heureux au monde. C'est un racket. Au minimum, augmenter la qualité. Okay. Assurez-vous de faire le travail. Okay. Sinon, on va mettre la hache dans votre modèle.
Mettons la hache partout. Regardez, est-ce que vous pouvez, vous, en tant que personne, après avoir consulté le rapport financier d'un CPE, me dire, vous répétez ce que vous êtes en train de dire maintenant. C'est des gens qui gaspillent beaucoup d'argent et que ce service coûte beaucoup plus cher si l'allocation était donnée aux parents. Elle ne devrait pas être donnée au CPE.
Il n'y a pas d'argent à faire. Les preuves nous le démontrent.
Non, vous ne faites pas d'argent.
Les garderies sont tous des gens.
On vient tout de suite.
La valeur non lucrative.
Bonjour, Laura. Est-ce que vous êtes un parent ou vous êtes quelqu'un
oui.
qui...
Oui, oui
on
oui,
vous écoute.
Je suis un parent. OK, moi, j'ai juste une question. C'est comme avant, ma fille était dans une garderie, une CPA.
Ouais.
Et c'était vraiment un désastre. Je ne parle pas mal des CPA, mais là-bas, c'était vraiment non.
Okay.
C'était pas les éducatrices souriantes, c'est comme n'importe quoi.
D'accord.
Donc, maintenant, elle est dans une garderie privée. Moi, j'ai le pay maintenant, toujours sur ses éducatrices. Les nouvelles de la journée, elle travaille avec moi, de son comportement, le milieu c'est fabuleux, on a les nourritures bio, tout. Mais moi, je veux savoir pourquoi c'est pas le même remboursement que le CPA ici à une garderie privée. À la CPA, j'ai payé comme à peu près 8,10 $ chaque jour. Mm-hmm. Ici, je dois payer, même avec le remboursement, 13 $. Mm-hmm. Pourquoi moi, comme un parent, je suis pénalisée? Mm-hmm. J'ai pas un choix. J'ai comme pour moi, je dois travailler très, très fort pour ma fille d'aller dans une garderie que j'ai le paie. Mm-hmm. Mais pourquoi c'est pas égal? C'est tout ce qu'on veut comme ouais. les parents, que ça soit égal. Ouais. Ah,
faut, vous avez raison, il faut faire du ménage, je pense. Ça fait des années qu'on le dit, je pense, Fanny Dagenais, dans le fait que ce système-là, on a commencé tout à l'heure notre discussion là-dessus. C'est ce que monsieur disait derrière. Monsieur Dayer disait, il y en a 5 minimum services, là, sans compter les gens qui s'arrangent. Donc, est-ce que c'est pas ça une des solutions aussi, Fanny? Vous êtes en mode solution, tant mieux. Est-ce que c'est pas aussi dire, faut clarifier tout ça, puis peut-être faire un système qui soit beaucoup plus homogène, en incluant le privé, en incluant les CPE et tout, mais d'arrêter les subventionnés, privés, pas subventionnés, ça devient tellement mêlant qu'on sait plus de quoi on parle.
Bien, c'est certain, puis j'écoutais madame, on veut
elle a raison, Laura,
que ce soit
là.
Plus égal, puis on veut que la qualité soit offerte de façon égale dans tous les milieux. Ça, c'est vraiment la priorité, parce qu'on dit, on veut offrir le choix aux parents, mais est-ce que c'est vraiment un choix quand, dans le choix qui s'offre à nous, il y a des milieux dont, où la qualité n'est pas au rendez-vous?
Ça
qui
fait
a
des,
des
garderies à 5 vitesses.
Les garderies de qui ne sont pas de qualité vont s'éliminer d'elles-mêmes.
Je suis pas sûr, monsieur,
parce que la concurrence, ouais. elle fait un nettoyage incroyable. Ouais. Et la concurrence, elle ne peut que être bénéfique. Le monopole, c'est la mère de tous les vices.
Mais je pense qu'on oublie le fait qu'il y a quand même plus de 30 000 enfants qui sont sur des listes d'attente en ce moment pour entrer dans un service de garde.
Il faut le dire.
Les parents n'ont pas le choix, là.
Absolument. Puis dans les conditions qui sont associées, parce qu'il y en a des conditions qui sont associées aux meilleurs services où il y a la meilleure qualité, c'est sûr que le financement gouvernemental s'est associé à une meilleure qualité. On ne se le cachera pas. Au même titre que la formation des éducatrices, on en a parlé, mais aussi la taille des groupes. Ça aussi, c'est quelque chose d'avoir
la nourriture,
des plus petits groupes.
Des
plus petits groupes qui permettent une meilleure qualité d'intervention, d'avoir également des conditions de travail pour les éducatrices. Donc, on parle évidemment un salaire plus important est associé à une meilleure qualité, mais aussi d'avoir du temps pour planifier les activités, du temps pour discuter entre éducatrices de l'approche pédagogique à adopter.
D'accord.
Donc, il faut fournir ces conditions-là aussi pour que la
qualité
soit là.
On a Wendy qui est une mère dont un enfant va justement dans un service de garde privé. Bonjour, Wendy.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, mon expérience avec la garderie privée, c'est que je trouve que, oui, ça coûte plus cher. Ça me coûte au moins 25 $ de ma poche pour envoyer ma fille à la garderie privée. Et ce que j'ai reçu en service, c'est plus que j'aurais espéré. Les garderies CPE que j'ai visitées, elles étaient pas très propres. Elles étaient pas...
pas à la hauteur.
Il y avait pas de soins. Il y avait pas de, qualité que je pouvais voir de mes yeux. Puis là, moi, ma fille va graduer de la garderie. Elle y va depuis qu'elle a 11 mois. Puis c'est vraiment
un bel environnement.
Sur des gens super chouettes. Ils sont vraiment à la hauteur, plus qu'à la hauteur de mes attentes.
Merci.
Ils font intégration à l'anglais, intégration à l'espagnol, heure du compte en français. C'est
un vrai programme, un vrai programme. Donc,
c'est un programme éducatif.
Ouais.
Et puis c'est un programme sportif. Ils apprennent déjà à compter. Ils apprennent déjà toutes les lettres. C'est vraiment incroyable.
Merci, Wendy. Ça c'est tout à fait correct. Ce que Marie m'écrit, elle dit qu'elle est enseignante en technique d'éducation à l'enfance. Elle dit, il faut que les parents se questionnent. Il est essentiel de visiter le milieu de garde de votre enfant. Il va le fréquenter tous les jours. Allez le visiter. Les inspecteurs ne sont pas qualifiés, dit-elle, pour faire des inspections. Moi, je rajouterais, de toute façon, ils sont juste 34, fait qu'on oublie ça. Elle dit, la qualité va de pair avec la formation des éducatrices. Ça prend des gens qui ont un DEC en technique d'éducation à l'enfance. Moi, je suis assez d'accord. Ça prend une planification des activités, ça prend un programme en approche démocratique. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'imagine que c'est un bon programme. Elle dit il faut un programme éducatif qui s'appelle « Accueillir la petite enfance ». Mais elle dit c'est dommage parce que la loi actuelle n'oblige pas les espaces à être assez grands. On élève nos petits, on les fait grandir toute la journée dans des petits cubicules. Des fois, la cour est en asphalte. Donc, c'est un long courriel qu'elle m'écrit, mais elle confirme qu'il faut des gens à la base, il faut trouver des gens spécialisés. Monsieur Dayer?
Ben, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Bon, mettons que le gouvernement subventionne les CPE et ne subventionne pas le reste. Bon, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi le gouvernement discrimine une grande partie des parents dont les enfants ont des besoins particuliers. Ils n'ont pas le droit de les avoir dans les garderies non subventionnées. Ils vont les avoir dans les CPE.
Merci bien. Merci Khalid Daher, président de l'Alliance québécoise des garderies privées non subventionnées. Toby Lamontagne, merci Toby.
Salut Isabelle.
Bonne chance. Fanny Dagenais, merci. Directrice de l'Observatoire des Tout-Petits, merci de nous avoir permis de discuter tout ça. On se retrouve après la pause. On va parler d'assurance.